Salut, c'est Claire-Marine Béa. Je viens de lancer l'infolette Sous la fibre qui, chaque mois, va vous offrir des contenus supplémentaires autour des arts visuels, de la créativité, en plus de vous proposer plusieurs suggestions et coups de cœur culturels et de vous parler des coulisses du podcast. Abonnez-vous, le lien se trouve dans la description de l'épisode. Il y a mille et une façons de s'emparer d'un sujet. Une infinie de chemins qui portent en eux des questionnements semblables. Et s'il y a bien une chose qui me fascine et que j'admire chez les artistes visuels, c'est leur capacité à investir l'angle qui les appelle. Cette liberté et cette dévotion me bouleversent par leur puissance. Depuis le début du podcast Sous la fibre, j'affirme que derrière l'art se cachent des êtres vivants, animés de désirs et de défis, et leurs œuvres d'art sont des langages à part entière qui semblent toutes dissimuler une porte vers un nouveau sujet. Dans cette série de discussions nommée Transversale, je m'entretiens avec des artistes visuels œuvrant dans des disciplines différentes autour d'un thème, d'un sujet ou d'une réalité similaire qui traverse de manière singulière leur pratique. Vous écoutez Sous la fibre, le podcast qui donne une voix aux artistes visuels. Dans toutes les œuvres d'art se trouve une partie de l'artiste qui l'a créée, mais certains et certaines y laissent leurs traces de manière plus tangible. Si depuis toujours les êtres humains s'auto-représentent, l'autoportrait devient un véritable phénomène chez les peintres à la Renaissance. C'est pour ça qu'on possède aujourd'hui de nombreuses toiles où les artistes posent bien souvent leurs palettes et leurs pinceaux à la main ou encore s'incrustent dans un paysage, souvent de manière assez subtile, dans le reflet d'un vase ou d'un miroir. L'autoportrait permet de s'inscrire dans la temporalité, de se voir, de s'inscrire dans l'histoire, de s'établir en tant qu'artiste, de s'endosser en quelque sorte, mais aussi parfois de se pratiquer à la peinture. Puisqu'après tout, la commodité reste sans doute la première raison pour laquelle des artistes ont commencé à se prendre elles et eux-mêmes pour sujet. Ce qui est certain, c'est que pour les femmes artistes, l'autoreprésentation, ça a été un véritable moyen de réclamer leur propre agentivité, de raconter leurs histoires, de reprendre le contrôle sur leur image et de sortir finalement de l'archétype de la Vénus allongée, fantasmée, de la femme passive, conçue par et pour le regard masculin. Je vous en parlais d'ailleurs un petit peu dans l'infolette du mois de novembre 2023, mais ce « male gaze » qui a construit le récit hégémonique de l'art, a généré des canons esthétiques et sociétaux auxquels il est presque impossible de s'identifier. Pour ne nommer que celle-là, plusieurs artistes possèdent des corpus qui recèlent d'œuvres riches de sens qui s'appuient sur l'autoreprésentation. C'est le cas de Frida Kahlo, qui est sans doute la plus célèbre, de la photographe Cindy Sherman, qui a incarné des centaines de personnages dans ses photos saisissantes, de la canado-japonaise Mia Turnbull, qui utilise son visage pour concevoir de nombreux masques captivants en papier mâché, de Marisol, qui a posé son visage sur quasiment toutes ses sculptures, ou encore de la photographe Zanele Muholi, une artiste contemporaine qui a utilisé, elle, l'autoportrait comme manière d'aborder l'histoire politique de son pays, l'Afrique du Sud. Au tournant du XXe siècle, l'autoreprésentation a été énormément investie par la photographie. C'est sûr qu'il était non seulement plus que jamais habile d'être son propre sujet, mais c'était aussi sans doute excitant d'expérimenter les variations, la dissection et la distorsion de l'image que permet le médium. Et cela a, entre autres, donné l'occasion à de nombreuses personnes mises en marge de s'auto-documenter, de se raconter avec liberté ou bien de se mettre en scène. Encore une fois, pour ne citer que quelques artistes, je pense à l'afro-américaine Carrie Mae Weems, et à ses scènes du quotidien et sa manière d'avoir donné une visibilité à la culture noire grâce à des éléments autobiographiques, à Annie Nogle, qui a documenté son vieillissement dès l'âge de 42 ans, ainsi qu'aux communautés queer, pour qui l'expression de soi a également été un exutoire nécessaire et une manière de laisser une trace. Claude Cahun, Robert Mapplethorpe, Alice Austin, puis j'aimerais aussi vous rappeler que l'artiste de Montréal, Laurence Philomène, à qui j'ai consacré un épisode entier, a récemment documenté sa transition dans plusieurs séries vibrantes absolument fascinantes. Évidemment, je peux pas ne pas mentionner la discipline de la performance qui permet aux artistes de bien souvent transmettre des idées à travers leur corps, leur incarnation. Rappelons-nous que dès les années 70, de nombreux artistes féministes se sont notamment emparés de ce moyen d'expression pour véhiculer plusieurs de leurs revendications, puis surtout dénoncer l'objectification des femmes. C'est le cas de Judy Chicago, Carol E. Schneeman ou encore Anna Mendieta. Mais je pense aussi aux contemporaines Marina Abramovic et Orlan. La performance, elle permet de convoquer des images fortes et de faire appel, parfois même sans aucun mot, aux émotions et aux expériences humaines, grâce à l'activation du corps dans l'espace et à sa prise de risque. L'autoreprésentation peut donc autant s'inscrire dans une tradition de s'exercer et s'observer, mais aussi à l'intérieur d'une remise en question plus profonde de la société, puis notamment de la portée identitaire au sein d'une société abondante d'images, où est-ce qu'on est un peu tous coincés entre les selfies et la codification des genres. Mais vous l'entendrez au cours de l'épisode, si un autoportrait, une autoreprésentation part de l'artiste, de sa subjectivité et de son image, il a bien souvent l'intention d'interpeller autrui, de lui offrir parfois un miroir sur sa réalité, voire carrément de renverser les stigmas. Mais avant de passer aux deux entrevues de cet épisode, j'avais envie d'inviter deux autres artistes à nous livrer des petits témoignages éclairs.
Mon nom est Marie-Danielle Duval et je suis une peintre d'origine sénégalaise et québécoise. Dans mon cas, le travail d'autoreprésentation a été profondément influencé par un sentiment d'invisibilité que j'avais. Donc pour moi, le fait de m'autoreprésenter, c'est vraiment un moyen pour générer des nouvelles possibilités d'exister dans le monde. Avant d'emménager à Montréal, j'ai grandi à Chicoutimi, une ville où il y avait très peu de diversité à l'époque. Puis dans l'immédiat, les rares représentations de femmes noires, elles reflétaient pas du tout mon expérience personnelle. Donc, c'est d'abord dans la littérature que j'ai vraiment pu trouver des récits qui étaient représentatifs de ma propre expérience. Aujourd'hui, dans ma pratique, je peins des autoportraits où j'incarne des personnages féminins noirs qui sont inspirés d'œuvres de fiction littéraire. Je collectionne continuellement des textes puis des romans, en particulier d'autrices afrodescendantes, puis je sélectionne des figures dont les histoires sont souvent effacées, mais qui pour moi méritent d'être mises davantage de l'avant. À partir de ces histoires-là, je vais me mettre en scène dans des espaces intérieurs fictifs pour capturer des moments charnières ou capturer un état d'esprit, un contexte, puis finalement fusionner les récits avec mon propre imaginaire. Donc, ce qui me fascine aussi dans l'idée d'incarner l'autre comme ça, c'est la connexion qu'on peut ressentir avec des personnes, qu'elles soient réelles ou fictives, même si elles ont des expériences éloignées des nôtres ou qu'elles posent des gestes qui parfois vont à l'encontre de nos valeurs. L'autoreprésentation, c'est un exercice d'introspection, mais aussi d'empathie. Puis le fait de transposer des figures littéraires comme ça dans le champ visuel, c'est aussi pour moi un moyen d'inviter les gens à poursuivre une conversation sur les histoires qui sont racontées à travers les œuvres.
Moi, c'est Eja Palmer, puis je suis photographe professionnelle, un peu artiste multidisciplinaire. Donc, ça fait plus de 10 ans que je fais de l'autoportrait. C'est quelque chose qui me permet vraiment de me réapproprier mon corps. Je pense que ça l'a toujours été, même si je pense que je le réalisais pas tout à fait que c'était ça que je faisais. Quand j'ai commencé à en faire, c'était surtout simplement une manière de m'exprimer. Là, j'ai réalisé à quel point ça me permet de reconnecter avec mon corps puis de vraiment me le réapproprier, surtout en tant que survivante de violences sexuelles. Ce qui me plaît là-dedans, c'est aussi l'aspect du mouvement. C'est ce qui me plaît dans la photographie, mais on dirait que en faisant des autoportraits, je joue beaucoup avec le mouvement. Ça se rapproche presque à de la danse à certains moments.
Où se situe la frontière entre autofiction et autobiographie en art visuel? De quelle manière l'autoreprésentation peut-elle devenir à la fois un miroir, mais aussi un outil pour interroger la construction de l'identité et la contextualiser? Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec le peintre Michaël Lepage de ses œuvres qui défient les archétypes et qui s'amusent du spectacle qu'on fait de soi. Mais d'abord, j'ai souhaité céder la parole à Annie Baillargeon, qui conjugue pratiques performatives, photomontage, vidéo et peinture pour créer des œuvres puissantes, féministes et évocatrices. L'artiste qui réside à Québec ose surjouer les clichés et génère le trouble à l'aide d'éléments antagonistes afin de provoquer la normativité. Selon ses propres mots, son art, que je trouve par ailleurs délicieusement irrévérencieux, se base sur, je cite, une représentation exaltée et transgressive du corps. Je sais que l'art, ça a commencé pour toi avec la peinture et le dessin, mais à l'université, tu vas faire la rencontre de la discipline de la performance.
Ben, tu sais, je fréquentais des bandes de musique, puis j'avais été en scène avec les bandes de musique. Donc, l'idée du spectacle, l'idée de se costumer puis d'être en scène était là, dans mon univers. Puis, tout de suite, dans mes cours de photo, vidéo au cégep, je me suis fait des petites vidéos où j'étais en scène. Donc, c'est par la vidéo que j'ai commencé à me filmer, puis à explorer le corps là, dans toute... avec diverses problématiques que je voulais aborder, mais vraiment très, très intuitif. Ensuite de ça, à l'université, j'ai fondé les Fermières Obsédées. C'est un collectif qui a fait un parcours d'environ 15 ans. Ça a été une super école pour moi. Là. C'est vraiment... J'étais quelqu'un de très timide à la base. Puis le fait d'être en groupe, d'acter en groupe, puis d'avoir de l'assurance que ces femmes-là me donnaient une espèce de pouvoir, d'être moi. Donc, ça m'a vraiment aidé à sortir un peu de ma coquille, puis à m'exprimer davantage. Puis je pense que ça a eu répercussion aussi dans mon travail en solo.
Qu'est-ce qui t'a interpellé dans le fond, dans cette mise en scène de soi, cette activation vraiment du corps comme médium artistique?
Il y a toute l'idée de se mettre à nu, mais comme il y a une espèce de fragilité, en fait, de se mettre en scène. Puis c'est pas un corps qui nous appartient, il n'est pas à nous. J'incarne plus une construction du nous, en fait. Dans le fait que je me multiplie, je me travestis, je me disloque. En fait, j'utilise plein. Le corps devient vraiment un médium qui en fait devient une matière à construire du sens. Fait que pour moi, je trouvais ça intéressant d'utiliser ma propre personne comme matériau. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que finalement, j'étais aussi dans une autofiction de mon vécu à travers mes œuvres. Qu'il y avait ma vie qui s'imprégnait de mon travail. Mais je pense que par le corps aussi qu'on vit la vie, que la vie nous transperce. Les violences qu'on a, tout ce qu'on subit, c'est par le corps que ça se transmet au départ. Puis ensuite de ça, quand tu les retransgresses dans l'autoreprésentation, mais il y a aussi ces éléments-là très sentis qui, je pense, qui peuvent transparaître entre les lignes. Pas de prime abord, il y a ma personne, je pense, qu'elle est plus là, tu sais. Comme quelque chose d'un peu d'impalpable de mon être, de mon ressenti, de mes émotions, les violences que j'ai subies. En fait, tout ça, j'essaie de le retransgresser dans mes mouvements, dans l'action que je fais devant la caméra.
Mais j'ai bien aimé tantôt parce que tu m'as confié avoir été une personne quand même timide à la base, ou en tout cas avant d'avoir cette pratique en performance. C'est tellement une discipline qui doit être vulnérabilisante. Comment tu te sens quand tu performes? Puis j'imagine que ce ressenti, il a dû évoluer quand même en 20 années de pratique.
Oui, j'ai quand même survécu des gênes. Ben, la performance m'a vraiment beaucoup aidé à sortir, à m'exprimer. J'ai l'impression qu'avec le temps, ma personnalité s'est transformée. À chaque fois que je fais une performance, c'est comme je me jetais un peu dans le vide, dans des risques. parce que quand je fais une performance, il y a des paramètres que je me donne, mais il y a beaucoup d'espace entre les paramètres qui sont très glissants, qui sont très aléatoires et où que je perds le contrôle. Mais ça, j'aime beaucoup ça, travailler avec ça. La façon dont je travaille l'auto-représentation, il y a l'idée du persona. Je me mets entre le personnage et ma propre personne. Et puis, souvent, je fais des références à l'histoire de l'art, des gens qui m'ont inspiré. Fait que comme Anna Diamond d'État, j'ai travaillé l'écrasement sur la vitre. J'aime ça faire des petits clins d'œil à des femmes mentors qui sont là, qui sont présentes.
Elle se situe où, cette frontière, justement, entre le « nous » et le « je » ? Et est-ce que tu as des exemples de moments où est-ce que ça a été peut-être plus difficile ou de rituels que tu ferais pour te décrocher de ce que tu performes?
Je te dirais, quand je suis en groupe puis quand je suis en solo, c'est vraiment différent comme dynamique. En collectif, j'étais plus avec le « nous », donc... plus d'assurance aussi. En solo, ben, je suis plus dans une introspection, méditation, rituel. Et puis là, je me sens beaucoup plus vulnérable parce que je vais vraiment chercher plus loin dans mes blessures puis dans ce que je suis. Puis des fois, c'est épeurant. Tu sais, comme il y a une performance, après la performance, je tremblais puis je pleurais. Là, tu sais, j'étais allée un peu trop loin. C'est ça. Des fois, c'est plus vertigineux. Là. C'était une performance qui parlait, ben c'est ça, du viol, tout ce qui entoure ça. Puis que je voulais faire la paix avec mon corps puis passer à une autre étape. Donc, j'étais allée vraiment profondément loin dans ma tête, je pense, en la faisant. Tu sais, je m'étais mis dans un état plus profond. Puis de réflexion. Puis après, ben, ça a comme sorti d'une manière très émotive. Là.
Ouais, je comprends. Mais je pense que c'est pour ça aussi que la performance est tellement percutant pour les spectateurs, spectatrices. C'est justement cette prise de risque, le fait qu'on est vraiment... il y a une présence palpable. C'est quelque chose qui... Il y a l'effet de surprise aussi de ce que la personne, qu'est-ce qu'elle va incarner, qu'est-ce qu'elle va jouer.
Oui, ben la performance, c'est dans le temps, le mouvement, puis c'est ça, c'est comme vraiment différent de comme quand on affiche une image, l'image est résolue. Tu sais, quand je fais une œuvre picturale, quand j'apporte avec la peinture ou différents éléments de l'assemblage, j'essaie de faire une résolution, une paix avec ce qui est amené, l'aspect trouble. Tandis qu'en performance, des fois, ça peut être très cru. J'ai quand même des affects puis des choses qui m'interpellent beaucoup, comme la nature, tu sais, tous les éléments naturels. Récemment, j'ai acquis une portion de terrain, puis je me recueille là souvent, puis que je collecte des artefacts végétales, comme la cendre, je suis allée la mettre dans ma performance, du bois brûlé, fait que je ramasse un peu de trucs dans cette partie de bois-là. Puis à l'inverse, j'habite en ville, fait que tout l'univers de la ville, la consumériste, la société de consommateurs, le capitaliste, tous les déchets, ben ça vient aussi teinter mon univers, fait que c'est encore en contraste. Je suis quelqu'un qui aime les vêtements, fait que tous les vêtements, les costumes, j'ai beaucoup tout le temps fait mes costumes, j'aime le vintage, je collectionne des objets, fait que je ramasse des objets qui peuvent me parler symboliquement dans mon travail. Dans mon atelier, il y a tout le temps des hôtels d'objets qui sont là, qui attendent de se faire se faire performer à quelque part dans mes photos, dans mes projets. Puis, je suis quelqu'un qui aime tout l'univers de la magie, le tarot, le culte. Puis, il y a mon passé religieux protestant dans lequel j'ai grandi étant jeune, puis qui est tout le temps, c'est tout le temps un élément confrontant. Ma dernière série parlait un peu de ça, puis j'essaie de recomposer un univers qui est à moi puis qui m'ancre dans le monde.
Mais ton travail, il est aussi féministe. Il l'était bien avant que ce soit correct et trendy d'être féministe. On parlait tantôt, tu as commencé ta pratique au tout début des années 2000. Par rapport aux éléments que je me suis notée de mon côté, qui sont une illustration de la portée féministe de ton travail, bon, déjà, il y a ton corps, forcément, ton corps féminin que tu engages directement. Mais ça parle aussi beaucoup des injonctions, la jeunesse, la beauté, la minceur. Puis tu contournes et tu t'amuses beaucoup des clichés, tu sais, que ce soit la couleur rose, des matières, des textiles un petit peu plus doux. Il y a un rapport à la séduction qui est quand même souvent ambigu dans ton travail, qui vient créer une tension. Fait que c'est comme un rapport au féminin, protéiforme, fluide, assez conscient des cases dans lesquelles on le met, dans lesquelles on souhaite l'enfermer, mais comme subversif, en quête de transgression. C'est très exubérant, très maximaliste.
Je pense que la portée féministe a toujours été, a traversé quand même mon travail. Je vois qu'il y a des périodes où j'étais plus dans l'effacement. Je prends la période où j'ai élevé mes enfants, j'étais vraiment dans l'effacement parce que j'étais dans la domesticité, puis le rapport au féminin était moins présent dans ma vie. Fait que là je vois mes enfants grandissent, puis là, je reviens à ce que j'étais, le conflit identitaire, le rapport amoureux face à la féminité aussi, parce que, tu sais, je veux pas m'encarcaner dans quelque chose de binaire. Je suis quand même quelqu'un qui est comme dans la non-binarité des choses. Fait que quand que j'ai commencé à élever ma fille, le côté de vouloir plus m'affirmer féministe et d'être plus comme frontale était plus, il y avait un appel plus fort. Je voulais transmettre quelque chose de plus réfléchi. Puis au moment où j'ai pris cette position-là, ben tout a été clair pour moi. Et puis plus je vieillis, plus je me sens radicaliser dans mon art et dans mes propos. Parce qu'à l'époque, tu sais, au début de ma carrière, je voulais pas m'enfermer dans « je suis féministe », tu sais, je me déclarais pas tant féministe parce que j'aimais pas ce qui était véhiculé par la troisième vague de féministes tant que ça, ou la deuxième encore moins. Puis là, avec la quatrième, ben, tu sais, tout ce qui est là, je me sens vraiment plus en accord avec les nouvelles philosophies intersectionnelles, vraiment. C'est vraiment là-dedans que je me situe puis je me considère.
Moi, j'ai été très marquée par ton projet Square Femininity. C'est un projet qui explore l'image de la féminité véhiculée par une culture consumériste occidentale qui est prise d'assaut par les technologies numériques. Donc, tu t'es beaucoup inspirée de l'esthétique des youtubeuses beauté, puis de toutes ces injonctions autour de l'esthétique et la jeunesse. Pour cette série, en fait, on te voit utiliser toutes sortes d'objets allant du masque à la brosse à un genre d'aspirateur de points noirs, j'imagine. Donc, tu t'adonnes à ces rituels beauté qui font écho au concept de vanité, de fontaine de jouvence. Et donc, tu utilises tous ces produits et ça en devient presque monstrueux.
C'était toute une réflexion autour du vieillissement, mon propre vieillissement aussi, fait que je me suis mis vraiment dans une position d'auto-cobaye dans ce projet-là. Ça a été le projet que j'ai trouvé le plus difficile, hein, dans forme de défi de retour-représentation. Là. C'était un projet, vu que j'étais vraiment comme j'étais le rôle laboratoire de mon propos. J'ai commencé sur Instagram, c'était un projet qui questionnait Instagram aussi, d'où le square, le carré, côté droit angle égaux, le côté rigide que la société nous impose à fitter dans un cadre puis être complètement parfait dans ce cadre-là. Le côté anxiogène de l'auto-représentation et de la sur-représentation de soi à travers les réseaux sociaux. J'ai élaboré ça sur quotidiennement, de façon quotidienne, à travailler en image sur une période de 3 ans. Donc, j'ai décapité un peu ma féminité avec les objets très, très curieux. Et finalement, je trouvais qu'il y avait comme un potentiel artistique aussi à travers ces objets-là.
Vous trouverez le lien de cette œuvre vidéo dans la description de l'épisode. Je vous invite à la consulter parce que ça vaut vraiment la peine de se plonger dans cette performance où il est si aisé de tomber dans l'aliénation de la beauté et l'obsession de notre propre perfection.
En fait, c'est comme si l'humain devenait comme un support à consommation. Il fait partie de l'engrenage capitaliste avec toutes les influenceuses. On fait partie de ce système-là de vente. Au final, la beauté, c'est un prétexte. Ah, c'est pas ça qui est important. C'est que cette roue-là continue d'une part ou d'une autre. Il faut que l'argent continue à circuler à travers les corps. Puis c'est l'idée de contrôle des corps à travers ça, ce système capitaliste-là. C'est un peu ça la réflexion, puis aussi tout le côté lisse et très blanc et très uniforme de la beauté qui est super inquiétant avec les filtres, avec tout ce qui nous est proposé comme dispositif. Au final, on ressemble tous à la même personne, à quoi on doit ressembler pour être validé dans le cadre. Tu vas accepter à cette beauté-là pour faire de l'argent sur ta beauté, et puis c'est comme un système assez malsain. Tu sais, dans ce projet-là, j'ai pas de réponse à ça, mais je me suis juste comme laissé glisser dans les cracks de cet univers-là, parce que je suis pas de la génération non plus d'Instagram, tu sais. J'ai vu ça apparaître. Pour moi, à 40 ans, de faire des selfies, c'était vraiment weird, c'était vraiment bizarre. C'est que j'ai voulu essayer de comprendre c'était quoi être dans ce système-là.
Mais la thématique, je pense qu'elle est très pertinente et elle doit rejoindre beaucoup de monde parce qu'au final, ça nous parle de toutes les mises en scène de nous-mêmes à travers les produits, nos rituels, même s'ils sont un peu moins intenses que ce que tu pousses dans tes performances. Puis quelques années auparavant, tu avais parlé aussi de cette injonction à la minceur. On est toujours un petit peu, c'est ça, dans la perfection qu'on demande aux femmes, avec notamment ta série Indéfectible Beauté.
L'œuvre a été détruite d'ailleurs sur les plaines. Je ne sais pas si tu avais.
Non.
Non, okay, c'est une œuvre controversée qui a eu. Ça a bousculé. Un militant conspirationniste qui voulait détruire, faire sa propre loi, il a détruit mon œuvre, il a donné des coups de massue sur mon œuvre en me traitant de pédophile satanique.
OK, je le savais pas.
mais à la base, c'est un super projet que j'étais vraiment contente de faire. C'était une œuvre éphémère sur les plaines d'Abraham avec 10 jeunes du Centre de solidarité jeunesse, puis sur la diversité corporelle. Donc. Puis avec les jeunes, on a voulu, eux voulaient plus parler de hypersexualisation du corps à travers les médias. Puis eux, en tant que jeunes adolescents, ça les confrontait. J'avais mis des pôles de dancing. À titre d'ancrage, parce que moi, je trouve quand même que le pole dancing, c'est quelque chose qui... ça permet au corps de s'ancrer puis de vraiment d'être fluide dans l'espace. J'ai décidé de travailler avec ça, puis avec les miroirs, les verres, les costumes, ils ont mis en scène leur identité corporelle. Mais ça a beaucoup choqué de voir des jeunes femmes. Tu sais, il y avait des hommes qui se traversaient, il y avait des hommes queer dans le groupe, mais on n'a jamais parlé des hommes, on a tout de suite parlé des corps des jeunes filles. C'est ça, là. Puis là, vous avez fait dire, hey, on attarde donc bien de pression au corps des jeunes femmes, ils ne peuvent pas se montrer.
C'est un peu hypocrite aussi, sachant qu'on utilise constamment le corps des jeunes femmes pour vendre toutes sortes de choses et que c'est des objets de désir alors qu'elles ne sont même pas adultes. Quand c'est une œuvre d'art, on est dans une réflexion. Et donc, je trouve ça quand même assez drôle que c'est sur ton œuvre qu'on est tapé avec un coup de massue. Ih, là là.
Oui, il y a une vidéo, tu peux aller voir.
Il y a ta série Les Leçons qui a été amorcée en 2018 aussi, que je trouve pertinente parce que, encore une fois, t'es pas toute seule dans l'autoreprésentation. Cette fois-ci, t'es avec ta fille. Est-ce que t'as pensé à ton image et son image différemment?
Incorporer ma fille, c'est plus délicat. À chaque année, j'ai un rituel avec elle depuis qu'elle a 4 ans. On fait un petit shooting photo, ça lui permet de rentrer dans mon univers puis d'explorer un peu c'est quoi l'art. Puis moi, je m'amuse, fait que je trouve ça quand même intéressant de développer ça avec elle. À chaque fois, elle est super enthousiaste à le faire. Mais toutes les il y a comme peut-être 6-5 shootings que j'ai mis de côté. J'attends qu'elle ait son 18 ans pour lui demander son consentement sur les images parce que je réalise que, tu sais, là, elle vieillit, tu sais, elle quitte l'enfance pour l'adolescence. Puis je trouve que le rapport à l'image change aussi en vieillissant. Elle choisit qu'est-ce qu'on va faire aussi. Elle est vraiment prête au jeu. Elle est bonne performeuse. Elle est vraiment... Elle est très photogénique. Fait que à chaque fois, ben ça parle de notre relation mère-fille, vraiment. Puis comment moi, je me sens en tant que parent dans tout ça. Parce que c'est un tabou, mais moi, je le dis, j'ai jamais été comme confortable dans mon rôle de mère. J'ai pas... Le carcan de la mère m'a tout le temps féroché. Puis... Fait que c'est vraiment là-dessus que je parle. Tu sais, je parle pas de la maternité épanouie, c'est fun d'être parent, mais c'est vraiment tout ce que ça implique comme tiraillement par rapport à sa propre féminité, à sa propre identité.
Tout ce qui est de l'ordre de la dichotomie, du contraste, fait vraiment beaucoup partie de ton travail. T'es, à la fois, il y a des jeux entre la noirceur et la lumière, la douceur et une certaine violence, quelque chose de trash versus quelque chose de très esthétique. Puis aussi, il faut s'approcher de tes œuvres, hein, parce qu'elles ont l'air de quelque chose de loin, mais elles révèlent toutes leurs facettes plus on s'y approche. Ça crée une forme de tension. Fait que moi, je veux savoir comment t'élabores tes compositions. C'est sûr que tu viens chercher quand même ce contraste aussi dans tes performances, mais dans tes compositions qui peuvent être parfois du photomontage. Je sais que tu ajoutes de la peinture depuis quelques années aussi. On sent une énergie polarisante même parfois.
C'est une idée de tension que je recherche tout le temps. C'est quand tu mets des éléments en contraste, il y a comme quelque chose qui se passe, puis il y a comme une non-résolution qui est là, qui cherche à avancer, comme une sorte de clair-obscur qui est un peu comme quand tu regardes la tension de la lune. Quand tu regardes la lune dans le noir, dans la nuit, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, en fait, c'est cette énergie-là que j'essaie de créer dans mes œuvres. Souvent, comment je fonctionne, c'est que là, l'image va être trouble, va avoir une problématique assez trash. Puis moi, quand je reviens avec la peinture ou d'autres éléments, je viens adoucir parce que à la base, je suis quelqu'un de très... quelqu'un de doux. Ben, tu sais, je suis quelqu'un de pas conflictuel, quelqu'un qui aime la joie en moi puis de l'amour. Fait que ça, je le retranspose dans mon œuvre parce que c'est ma personne qui vient adoucir le propos. Toute l'horreur dans laquelle on vit puis que je veux confronter. Fait que ces dualités-là, je les mets en contraste.
Et puis souvent, dans tes compositions, tu te multiplies, puis t'incarnes plusieurs personnages qui viennent donner toute la profondeur, justement, à ces contrastes. On pourrait rester longtemps devant tes œuvres. C'est rare qu'il y ait juste une seule intrigue. On dirait qu'il y a plusieurs récits qui se racontent en même temps.
On est plusieurs. On est toujours multiforme. L'idée de toujours être en constante évolution, mutation. Donc, l'idée de me multiplier... ça a été comme, je trouve ça quand même intéressant l'idée de représenter toutes les facettes de la problématique. Ouais, ça crée des interactions entre soi, c'est comme un genre de dialogue avec soi-même. Ben, j'aimais beaucoup les images de Jérôme Bosch, là, ou les peintures médiévales, qu'il y a beaucoup de personnages, puis qu'il y a énormément d'actions qui se passent. Je pense que c'est comme un univers qui m'a souvent longtemps fascinée. Ça bouge, c'est frissonnant d'actions, de problématiques, de sentiments, puis ça représente un peu nous dans le monde, avec le monde, tu sais. J'ai pas encore été dans le nu, tu sais, le mettre nu. J'ai pas transgressé ça. Puis toutes mes figures mentors en or, c'est tous des artistes performeurs, se sont mis tout de suite nus. Dans les années 60, c'était très affirmé. Mais moi, j'utilise le vêtement pour faire une mascarade de ma personne. Fait que, c'est ça, dans l'auto-représentation, tu sais, il y a des certaines limites que j'ai. Peut-être quand je vais être plus vieille, ça me dérangera plus. Là. Et je sais qu'il y a une fois, quand j'ai fait, il y a une série qui m'avait vraiment, c'est un vertige. Je m'étais tellement multipliée sur l'image. J'avais tellement été loin dans la représentation de mon identité. Quand ça a sorti à l'imprimante, là, il était super grande. Puis là, c'était pour être exposée au musée. Fait que là, c'est comme une des fois que j'ai mal filé là, pendant une semaine à me demander si j'allais les exposer ou pas. Puis j'étais jeune aussi, fait que j'avais pas toute l'assurance que j'ai plus maintenant. C'était un défi pour moi de m'afficher aussi grande dans des grands espaces. Comme au départ, je disais que j'étais à 20 ans, j'étais très, très timide, mais ça, je me considère vraiment plus timide. Tu sais, des fois, il y a des photos que je mets pas parce que je suis comme « Ah là, non, pas ça, pas celle-là, elle est bonne, mais je vais trop loin. » Des fois, je suis comme « J'y vais pas. » C'est quand que j'ai mes photos, mettons, on me remet les photos d'une performance et je trouve ça toujours dur de les revoir. Puis, c'est toujours dur de se voir des fois en action. Là, c'est ça. Surtout si je parle de vieillissement du corps, ça a été confrontant pour moi, ce projet-là. T'sais, à la fin du projet, je voyais que je me maquillais vraiment trop, puis que j'étais comme... Ça m'a comme créé une obsession, finalement, sur mon apparence. ça a fait l'inverse. Ça a été peut-être un peu malsain. C'est ça, des fois, c'est comme... c'est à la limite de... faut bien gérer nos limites.
Est-ce qu'il y a des artistes en performance ou qui ont utilisé l'autoreprésentation, qui ont influencé ton travail ou qui t'ont inspiré?
Je vais te dire mes deux artistes préférés là, que, de cœur et de toujours. Là, il y a Anna Mandetta, qui a une profonde admiration pour son travail, qui est morte assez jeune d'ailleurs. Les deux artistes que je vais nommer sont mortes assez jeunes. Puis c'est très, très touchant, très senti, qui ont découvert sur le tard aussi, que c'est des artistes qui ont été mis de côté dans l'histoire de l'art. Puis travaille la nature, le rituel, la terre, les éléments de la nature. Puis toutes ces vidéos, je sais qu'on a ressorti tous ces films en pellicule parce qu'elle en avait des tonnes. Fait que sa sœur, elle a aidé à faire ressortir son travail. Puis il y a Francesca Woodman aussi, une des premières à s'être prise en photo sur des petites pellicules carrées. C'est une belle représentation du sentiment à travers l'autoportrait. Il y a quelque chose qui est plus que l'autoreprésentation. Là. Il y a vraiment dans les compositions, c'est très vibrant comme travail. Sensualité, désir, le désir avec la caméra, une espèce de côté irrésolu, d'identité aussi. Il y a le travail de Manon Lavrec qui est parti récemment, qui est une artiste que j'admirais au Québec, avec une poésie puis une philosophie propre à elle, mais elle faisait vraiment réfléchir le monde puis la condition de l'artiste. Et puis, il y a Kasia von Zippel, je sais pas si c'est une Suédoise, qui fait de la sculpture, ça c'est comme complètement fou. Avec tous les artefacts consuméristes, là, ça fait des personnages hybrides, queer, c'est vraiment beau. Un des projets que j'ai beaucoup aimé faire, c'est mon projet de médiation. Là, c'est plus des projets où ce que je fais appel aux autres. Je suis comme plus là-dedans. Je suis plus dans l'autoreprésentation, je suis derrière. Je suis l'acteur des éléments lumineux. Je vais travailler avec la luminosité des corps, des autres corps. C'est comme si je me mettais à l'inverse, là, en arrière-plan. Je pense peut-être que c'est un désir. Je me suis tellement auto-représentée, j'ai un désir de me mettre un peu plus derrière la caméra puis faire entrer les gens dans mon univers.
Michaël Lepage décloisonne les stéréotypes de genre à travers des autoportraits intemporels, énigmatiques, qui semblent au premier regard minimalistes, mais qui en fait regorgent de symboles. L'artiste de Drummondville exprime sa vision de la masculinité à travers la peinture et ses réflexions liées au code vestimentaire qui régissent bien souvent les rôles binaires. À la fois salvatrice et vulnérable, sa pratique de l'autoreprésentation constitue en réalité une invitation à plonger au plus creux des détails de ses toiles et à considérer, avec lenteur, de nouvelles formes de représentation.
Je pense que l'art a toujours fait partie de ma vie. J'étais pas le genre de petit garçon qui aimait jouer au soccer ou jouer avec des camions. J'étais plus, j'écoutais des films. Je dessinais énormément. Je me souviens que au chalet à mes grands-parents, il y avait un bottin téléphonique, du temps où il y avait des bottins téléphoniques. Et puis, je l'ai encore aujourd'hui, ce bottin-là, parce qu'il est rempli de mes dessins. Quand j'avais plus de place, comme je continuais jusqu'à temps qu'on voyait plus les mots pratiquement pour essayer de comme toujours dessiner. Donc, j'ai fait mon secondaire en art visuel, mon cégep, université. Puis, je pense que c'est important de commencer par le fait que j'ai fait mon cégep en art, pensant que j'allais aller à l'université faire un baccalauréat en design de mode. Moi, j'ai toujours été fasciné par la mode, le vêtement. Et j'avais comme 12 ans, puis je lisais le Vogue français. Là. Ça, c'était comme mon obsession. Et puis, je me disais, ah, tu sais, je vais être couturier plus tard, puis comme c'est ça que je veux faire. J'étais mordicus là-dessus. Et puis, finalement, je suis entré au cégep. J'ai commencé à faire des œuvres, puis là, j'ai commencé à prendre goût. Comme, OK, on te demande plus, qu'est-ce que tu veux dire, comment construire une œuvre, comment véhiculer un message. Puis je commençais à vraiment prendre goût à ça. Mes enseignants, ils me disaient tous, Ah, tu sais, t'es-tu sûr que tu veux continuer en mode? Parce que t'as vraiment ta place dans ce milieu-là. T'as une belle sensibilité. Ce que t'as à dire, c'est quand même singulier. Puis finalement, deux, trois crises existentielles plus tard, je me suis dit, OK, comme je continue au bac en art, je trouvais que la liberté. J'aimais tellement la liberté que je me disais que de réfléchir le vêtement, c'était déjà trop contraignant comparé à une œuvre qu'on. On peut faire de la vidéo, on peut faire une sculpture, on peut faire du dessin, de la peinture.
T'as une pratique en peinture à l'huile surtout, et le thème de l'auto-représentation s'est quand même imposé dans tes œuvres, en tout cas les œuvres quand même phares de ta production. Qu'est-ce qui t'attire dans l'auto-représentation? Qu'est-ce que tu souhaites représenter en partant de toi?
En fait, je pense que mon rapport à l'art a toujours été extrêmement personnel. On entend souvent que tout a déjà été fait, surtout en peinture. Tu sais, c'est difficile de créer une nouvelle technique, une nouvelle façon d'approcher la peinture. C'est pas infaisable, mais tu sais, comme moi, mon rapport à l'art a toujours été d'aller chercher. Je trouvais ça intéressant les pratiques puis les artistes qui parlaient d'eux-mêmes, que ce soit de façon frontale ou indirectement. Le côté relationnel m'intéressait beaucoup. Qu'est-ce que cette personne-là a à dire, tu sais? C'est quoi le lien avec sa vie? C'est-tu des choses qu'elle a vécues? C'est-tu des blessures qu'elle a? C'est pour quelle raison est-ce qu'elle, de tous les sujets qui étaient possibles, elle a décidé de faire un projet sur elle-même et sa vie. J'ai toujours gravité autour de ce genre de pratique-là, et puis inévitablement, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des autoportraits. J'ai été longtemps où je disais que j'ai commencé l'autoportrait par faute de moyens et par facilité. J'ai toujours aimé la peinture figurative. J'aimais ça qu'il y ait des sujets dans mes tableaux. Et puis, je trouvais ça extrêmement compliqué d'organiser un shoot, d'avoir des modèles. En vrai, ça arrivait jamais à donner le sentiment que je voulais, l'émotion que je voulais chercher à présenter. Et puis donc, j'ai comme commencé à me prendre moi. Je mettais l'appareil photo, je settais le retardateur, puis comme je savais déjà qu'est-ce que je voulais, puis ce que je voulais que ça donne au final. Ça, c'est ce que j'ai pensé pendant longtemps. Et puis maintenant, j'ai l'impression que, ayant été un jeune garçon homosexuel, j'étais très, très réservé. J'étais très en réserve, très en gêne, puis j'ai l'impression que intuitivement, j'ai commencé à faire des autoportraits parce que c'était une façon pour moi de répondre à ce besoin criant-là que j'avais de communiquer, non seulement ça, mais de me raconter. Je me suis présenté d'abord par les tableaux, avant que moi je me présente aux gens. Je trouvais que c'était comme plus facile de, parce que j'étais pas face au spectateur ni au public. C'était comme, tu sais, c'est le tableau qui avait cette relation-là avec le public. Donc, je m'en permettais plus. Puis, j'ai l'impression que, intuitivement, c'est ça. C'était ma façon à moi de prendre ma place dans le monde. Moi qui étais jeune garçon, pas très masculin, qui était intéressé par le vêtement, je gravitais toujours avec la mode, l'idée de la symbolique que ça avait, les robes, le tissu, les drapés, le lien avec la représentation des hommes et des femmes dans l'histoire de l'art. C'est comme ça que c'est venu. Ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que je l'assume. Je le présentais toujours comme, ah, tu sais, je faisais ça parce que par faute de moyens, par facilité, même dans ma démarche artistique, tu sais, j'utilisais la phrase de mes peintures présentent des hommes. Je disais toujours des hommes, puis finalement, c'était toujours moi. Puis un jour, je suis retombé sur mes travaux de cégep, puis je me suis rendu compte que c'était quasiment tous des autoportraits. Ça avait commencé comme tellement tôt dans mon parcours. C'est là que je me suis comme mis à me poser des questions sur mon rapport avec ça, les autoportraits, puis pourquoi moi, tu sais? De quoi je parle, c'est oui, c'est la masculinité, mais c'est la masculinité avec laquelle j'ai été confronté et que j'ai été comparé tout le temps. C'était ma masculinité que j'essayais de présenter aux gens, ou en tout cas, le décloisonnement de ma masculinité.
Ça ouvre tellement de portes à des sujets super intéressants. Je vais essayer d'y aller un point après l'autre. C'est super pertinent ce que tu dis parce que c'est sûr que tu t'inscris dans une tradition de l'histoire de l'art,
des communautés queer qui ont utilisé l'autoreprésentation pour parler d'identité, mais aussi, tu sais, la construction de cette identité, et puis aussi la déconstruction éventuellement, tu sais, c'est, je pense à la photographe Claude Cahun, tu sais, ça a été vraiment, par exemple, quelqu'un qui s'est pris en photo, puis qui a joué l'ambiguïté, puis qui en même temps voulait troubler les spectateurs, spectatrices.
Ah, ben oui, certainement, tu sais, c'est, je me suis construit par les œuvres avant d'être prête à assumer moi complètement. Tu sais, je pense que je voyais mes autoportraits comme une sorte de safe place. C'est un peu comme ça que je les abordais, puis c'est un peu comme ça que je les présente encore aujourd'hui. C'est cette espèce de parenthèse-là à ma vie. Où est-ce que je m'en permets plus d'énoncer un peu ce que j'en pense de ça, de la masculinité, de la féminité, des représentations tout le temps super stéréotypées, genrées qu'on en fait.
Est-ce que tu as envie de me décrire un petit peu picturalement qu'est-ce qui se passe dans tes autoportraits qui sont quand même assez minimalistes, assez sobres, mais il y a toujours une tension, un élément un petit peu plus subversif, justement en propos de cette masculinité que tu viens questionner. Est-ce que tu veux m'en parler? Ça a été quoi peut-être les réponses aussi que tu es allé chercher grâce à ça?
Mes tableaux sont toujours très ambigus et toujours très ouverte. Comme moi, j'ai une intention en le faisant, mais je fais toujours par exprès pour que l'œuvre reste ouverte. Il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir plusieurs interprétations de ça. Puis je pense que c'est ça que j'aime le plus aussi, c'est de voir comment est-ce que les gens les interprètent, comment c'est vu, comment est-ce qu'avec nos yeux, on perçoit les symboles de façon différente. T'sais, mes autoportraits partent toujours d'un... l'idée du portrait, en fait, que je m'interrogeais beaucoup sur... Tu sais, il y a eu une époque où est-ce qu'on faisait des portraits pour se présenter, on voulait montrer notre statut, nos richesses, c'était toujours très opulent, très... Tu sais, comme les grands drapés, le rideau, il y avait comme un décor souvent aussi somptueux que le sujet. Et puis là, je voulais comme... J'aime ça m'amuser avec l'idée de... C'est un portrait, mais qui au final donne plus de questions... que de réponses. Il y a cette espèce de conversation-là infinie avec ce qui se passe. C'est toujours souvent un portrait frontal, une pose assise, comme une sorte de mélancolie, de contemplation dans mes œuvres, je pense. Les regards sont importants aussi. Parfois, ils fuient le spectateur, parfois son face. C'est toujours des poses un peu posées, je dirais. Il y a comme une sorte de calme, une lenteur aussi, qui est à l'image de ma personne. Quand je peins, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Mon amour de la mode s'est greffé un peu à ma pratique artistique dans l'idée de toute la codification, de la symbolique qui est autour des vêtements. Je retourne toujours vers les drapés historiques, là, des représentations qu'on voit un peu dans l'histoire de l'art. Là. Je sais pas si j'ai trouvé des réponses, mais je me suis certainement beaucoup plus assumé au fil de ma pratique, puis à force de faire les autoportraits. C'est un homme, je m'identifie en tant qu'homme, mais je me plais à m'amuser avec les vêtements qui sont de la garde-robe féminine, de toutes les représentations qu'il y a, c'est plus dans toutes les nuances qu'il y a de gris. Je m'interroge beaucoup sur, dans l'histoire de l'art, comment est-ce que les hommes et les femmes ont été représentés. Un tableau qui m'a marqué, c'est le serment des Horaces. Tout était dans ce tableau-là. T'avais les femmes qui étaient à droite, accroupies, en train de pleurer. Là, t'avais les hommes qui étaient braves avec leurs épées tendues, prêtes à aller au combat. Puis il y a quelque chose qui m'a comme fâché de cette œuvre-là. Autant qu'elle était, tu sais, c'est une œuvre importante, autant que tout était là. C'était comme la femme passive, pleureuse, l'homme combatif, tout ça. J'ai été énormément en réponse à ça. J'ai commencé à aborder les autoportraits avec cette espèce de fureur-là, d'essayer de montrer que c'était comme d'y aller dans le chemin inverse, de jouer à... Qu'est-ce que ce serait, tu sais? Ce serait l'homme qui est dans la passivité, qui est dans cette espèce de mélancolie-là, dans les émotions. C'est une sorte de propagande inverse, tu sais, de dire comme « Ok, parfait, moi j'ai jamais été ce type d'homme-là, puis je vais présenter le type d'homme que je suis. »
On sent qu'on est dans le monde des émotions, le monde qu'on a longtemps associé au féminin, parce qu'on sait que la peinture, elle a un énorme rôle à jouer, à quel point elle a véhiculé des stéréotypes de genre immenses. Puis là, on sait vrai que le modèle, donc toi, ou en tout cas les différentes autofictions, il y a une certaine élégance, un certain raffinement. C'est ça, tu te situes à la lisière, dans des nuances. C'est pas quelque chose qui est très in your face, mais on sent que clairement, il y a un décloisonnement que tu essayes d'induire. Mais d'ailleurs, tu parlais de ton amour des vêtements, de la mode. Moi, je ne le savais pas du tout avant de te parler que tu avais eu un parcours quand même en ce sens-là. Puis c'est vrai que les vêtements, c'est comme, ah, c'est intéressant, il y a quelque chose avec le vêtement. C'est pas juste un vêtement accessoire. Puis notamment dans ton œuvre Dénuée, que tu as peinte en 2019, qui a vraiment un fort pouvoir d'ambiguïté. On voit donc le sujet masculin qui est dos au spectateur, à la spectatrice, qui est assis, mais qui porte une chemise, donc à l'envers. Donc c'est comme si la chemise, elle est face à nous, mais le sujet, non. Les dos à nous.
La chemise blanche, c'était pour moi une obsession. Ça l'est encore, là. J'ai pas encore résolu ma quête obsessive avec la chemise blanche, mais je me posais énormément de questions face à ce vêtement-là qui était clinique, stérile. T'es comme quand t'as ça, une chemise blanche comme ça, t'es bien repassée, il y a comme, on dirait que la personnalité s'efface. Il y a quelque chose d'uniforme. Je pense que ça revient beaucoup à ça, les vêtements dans mes œuvres. Il y a beaucoup le rapport à l'uniforme, puis à se conformer à cet uniforme-là. Et puis, je me disais, ça pourrait être intéressant de travailler la chemise blanche, mais qui est présentée complètement froissée. Tu sais, comme là, il était à l'envers sur moi. Tu sais, je le voyais un peu comme les masculinités, puis le genre qui change, que ce vêtement-là soit un peu pris dans cette tempête-là. Tu sais, mon but, c'était d'y faire perdre son espèce d'aura un peu intouchable. Fait que là, j'ai commencé à jouer avec les différentes poses. Puis au début, tu sais, je l'avais à l'endroit. J'ai commencé à la retourner sur moi, puis je trouvais ça intéressant. La chemise est à l'envers. Tu peux pas mettre une chemise à l'envers. Tu sais, c'est-tu quelqu'un qui te l'a mis? Et tout ce rapport-là pour moi, tu sais, au patriarcat, à la place de l'homme, l'idée du monde professionnel, mais qui là devient complètement dénaturé, parce qu'on sent, dans cette œuvre-là, il y a une ambiguïté aussi sur qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on se trouve. Je pense que dans mes œuvres, en général, il y a toujours ça, c'est comme un non-lieu, on sent que c'est un intérieur, on sent qu'on est peut-être à la maison, mais il n'y a rien pour vraiment nous situer, puis j'aime ça comme ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'intemporel qui va un peu avec l'idée de l'uniforme aussi, qui est un peu perdu dans le temps. Puis je trouve ça intéressant aussi, cette idée-là, que ce vêtement-là n'a jamais changé, un peu comme les genres et les représentations qu'on en fait. C'est comme si c'est un vêtement qui aurait pu être porté aux époques des rois, puis qui est encore porté aujourd'hui. C'est avec cette œuvre-là que j'ai gagné BMO aussi. Je pense qu'elle a été comme bien reçue. Et puis maintenant, elle fait partie du musée à ciel ouvert de Drummondville. Puis je trouve ça intéressant d'avoir cette œuvre-là, qui en fait est une critique du patriarcat et totale, de façon un peu subtile, mettons. Puis de la voir côtoyer le quotidien des gens qui la voient, qui sont comme « Ah, wow! » Tu sais, qui se questionnent et puis qui vont chercher des réponses, puis qui se rendent compte que finalement, c'est une critique, une douce critique, mais c'est une critique quand même.
Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que tu proposes quand même un effacement de ta personne dans cet autoportrait. Tu te mets de dos à nous. Et en plus, la chemise blanche, c'est quand même... Il y a quelque chose d'assez neutre là-dedans. Donc, on pourrait facilement s'identifier au sujet, au personnage qui a l'air de vivre clairement une tension, un contraste dans la manière comment il est placé, habillé. Donc, tu sais, souvent, ce qu'on dit que l'intime est politique, là, il n'y a aucune expérience unique au final, malgré que tu parles de toi, que tu parles d'un ressenti qui t'est propre. J'imagine que tu as déjà reçu des commentaires comme quoi ça venait chercher le monde, ça pouvait peut-être aussi les confronter à leurs propres questions, à leur propre identité.
Ben oui, totalement. T'sais. Puis je pense que c'est important pour moi dans ma pratique aussi, c'est mon histoire, c'est moi, mais c'est aussi mon histoire qui s'inscrit dans quelque chose de plus grand. La problématique des genres, de la masculinité, de la féminité, c'est quelque chose que tout le monde peut s'identifier, tu sais, tout le monde peut prendre position par rapport à ça, tout le monde peut réfléchir à ça. Pour moi, c'est important que l'œuvre ne perde pas sa valeur, même si la personne ne me connaît pas.
Je serais intéressée à en savoir plus sur ton processus créatif. Tu dis que tes mises en scène, elles empruntent au code du portrait de la peinture d'histoire, mais que leur source, elle est photographique. J'imagine que ça commence par une photo, mais en même temps, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vient spark ta créativité. Comment est-ce que tu dis « Ok, là, j'ai une idée
». Quand j'étais au cégep, je faisais énormément d'art vidéo et de performance. C'est avec ça que j'ai vraiment commencé à communiquer. Et puis, quand je suis arrivé à l'université, je trouvais que les cours de vidéo me représentaient moins. C'était plus ludique, c'était plus... Tandis que moi, je cherchais encore beaucoup la narration. Et puis, je me suis comme tourné vers la peinture, mais sans vraiment quitter, je pense, la vidéo et la performance. Donc, il y a toujours cette idée-là de... Tu sais, je m'en vais dans les friperies, je regarde les vêtements, quand il y en a qui m'intéressent, ben là, je les achète. Puis des fois, je commence à explorer avec, tu sais, comme je le porte, je l'essaie de plusieurs façons. Tu sais, il y a des fois où j'utilise le retardateur, mais il y a des fois où je fais juste comme enclencher la vidéo, puis dans le fond, c'est une vidéo que je prends, duquel je prends des captures d'écran. Puis ça permet de... Parfois, c'est comme des gestes un peu involontaires ou... C'est un angle, un plan que j'aime beaucoup. Puis là, je fais plein de captures d'écran avec plein de possibilités d'œuvres, de cadrage, tout ça. Puis ensuite, ben je regarde, je suis à l'ordi, puis là, je traite les images, puis je me dis comme, OK, tu sais, est-ce que ça, j'aime ça? Est-ce que ça, j'aime pas ça? Est-ce que, ah oui, ça fonctionnait, je pourrais le refaire, mais comme avec un autre cadrage, parce que je préférais l'autre cadrage. Tu sais, une fois que ça s'est fait, ben là, je choisis mon image, puis là, je l'essaye en peinture. Tu sais, puis il y a des fois où... ça fonctionne pas du tout, la traduction, photo, peinture, tu sais, il y a des fois, l'image fonctionne, la photo, elle est magnifique, mais en peinture, c'est comme, ça fonctionne moins bien, tu sais, le rendu, le regard, c'est une question de technique puis de touche, le rendu là, mais au final, j'ai l'impression que c'est comme une sorte de performance qui devient filmée, duquel j'en tire des photos, duquel j'en fais des peintures. Je pense que les défis de faire l'autoreprésentation, c'est de ne pas tomber dans la facilité. J'ai eu beaucoup de conversations avec des gens qui me disaient comme « Ah, tu sais, parfois les autoportraits, tu sais, c'est un autoportrait. Tu sais, c'est comme, bon, l'artiste était triste cette journée-là, puis là, il a décidé de se peindre triste. Tu sais. » Puis je trouvais ça important. Puis en même temps, c'est ça la difficulté de faire un autoportrait. Tu sais, c'est pas juste moi parce que je voulais me présenter moi. Que ce soit fait de façon incarnée. Parce que je pense que c'est facile de tomber dans une espèce de narcissisme un peu tordu, là, de comme tu sais, ça peut devenir redondant aussi, tu sais, de bon, tu sais, c'est encore un autoportrait, c'est encore un autoportrait, tu sais. Fait que c'est, je pense que c'est ça les défis, c'est d'arriver à bien doser, tu sais, l'idée de c'est un autoportrait, mais qui raconte quelque chose. Ça reste que moi, je sais que c'est une photo de moi. Je peux pas m'en détacher. Fait, est-ce que je suis prête à l'assumer complètement? Est-ce que je vis bien avec le fait que les gens qui me connaissent puis qui voient l'œuvre, ben là, tu sais, ils me voient porter une robe de mariée? Ça l'ajoute un niveau d'attention de plus dans le processus de création. Il y a un petit vertige de dire comme, OK, comme là, le tableau, il est présenté au public. T'sais, je pense que c'est comme ça pour toutes les pratiques, mais encore plus quand c'est un autoportrait, t'sais, parce que c'est, tu peux pas te cacher, là, c'est toi, là. T'sais, puis quand tu fais une présentation, puis t'es à côté de l'œuvre, c'est comme encore plus voici tout, là.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, mais je pense que moi, c'est ce que j'aime dans l'auto-représentation. C'est vraiment cette prise de risque. Et tu l'as dit tantôt, le fait qu'il n'y a pas de cachotterie, on se cache. L'artiste, il est là. Puis même si on utilise son propre corps pour parler de sujets qui nous dépassent, qui sont même parfois, je sais pas moi, parler de nature à travers le corps, même si c'est pas super intime, c'est quand même intime parce qu'il y a le corps de l'artiste, il y a son regard, il y a son visage, il y a sa présence, et ça c'est quand même quelque chose d'unique. Je pense que c'est pour ça que depuis toujours les artistes s'essaient quand même un peu à l'autoportrait.
Oui, puis je pense que ça nous force aussi à assumer à 100% ce qu'on présente. Ça fait peut-être partie aussi des difficultés de l'autoportrait, de réfléchir à quelque chose qu'on est prêt à assumer jusqu'au bout. À l'œuvre qui s'appelle Le Nœud. Mon frère a eu des enfants, puis il y a eu une jeune fille, et puis ça a pris énormément de temps avant que ses cheveux poussent. Puis là, j'étais comme confronté à comment est-ce qu'on construit le genre, parce que là, il y avait une petite fille qui n'avait pas de cheveux, puis là, c'est comme s'il ressentait le besoin de prouver aux gens que c'était une jeune fille, puis là, il leur mettait toujours des boucles sur la tête, puis là, il prenait des photos avec les boucles. J'étais comme, c'est complètement... Pour moi, ça faisait pas de sens. Là. J'étais comme, clairement, elle portera pas cette boucle-là toute la journée. Là. C'est le truc le moins pratique pour un enfant d'un an et demi. Et... J'ai comme commencé à aborder l'idée de la construction des genres, mais par le regard des autres. Puis là, je m'intéressais à ça, cette idée-là de la boucle. T'sais. Puis moi, j'ai les cheveux courts. Fait que là, j'étais comme, ah, tu sais... J'ai trouvé une boucle, je l'ai mis sur ma tête. Je me suis comme rendu compte qu'il y avait cette idée-là de cadeau. Puis je trouvais intéressant tout le parallèle avec comment est-ce qu'on... Tu sais, les jeunes filles, les jeunes femmes, comment est-ce que c'est toujours des habits absolument pas pratiques. C'est toujours contraignant, c'est bouffant, c'est... Tu sais, comme ça, cette boucle-là, elle sert absolument à rien, là. C'est ornemental. On dirait qu'on décore un enfant, là. Peut-être une frustration que j'avais de faire comme « Bon, ben parfait, moi j'ai les cheveux courts, puis on va mettre une boucle sur ma tête pour comme... Qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? » Tu sais, que cette boucle-là est sur la tête d'un garçon, tu sais. Je la trouvais vraiment intéressante puis percutante, cette œuvre-là, par rapport à ça. Peut-être qu'on on devine pas nécessairement ça, mais moi, quand je l'ai réfléchi, j'étais vraiment... Je pensais à la boucle qu'on mettait aux jeunes filles pour prouver que c'était des jeunes filles. T'sais, c'est comme, ah, voici le petit cadeau, le petit chouchou, c'est une petite fille, là, on vous rassure, elle a pas de cheveux, mais c'est bel et bien une petite fille. Dans les grands artistes de l'histoire, moi, Cindy Sherman, c'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup dans toute cette idée-là de performer le genre. Là, on est plus dans la question de l'autofiction. La performation du genre, c'est toute une fiction, là, tu sais, de décortiquer l'être authentique de cette performance-là du genre, tu sais, c'est une question importante. Je pense que la symbolique aussi, la codification des costumes, tu sais, elle se costumait beaucoup. Je pense que ça, c'est peut-être venu de là aussi, intuitivement, ça, ce rapport-là à se costumer. C'est comme, ah là, aujourd'hui, je vais être un homme, tu sais, je vais m'habiller comme ça, puis demain, je serai pas ça, je vais être habillé autrement avec le vestiaire plus féminin, tu sais. C'est performer des stéréotypes beaucoup, tu sais, elle est beaucoup dans les extrêmes, tu sais, il y a une photo là, d'elle qui est comme presque au sol, puis elle regarde vers le haut, puis on sent comme le flash de la caméra, comme une espèce de vulnérabilité, comme si tu sais, elle était dans une scène délicate, tu sais, puis après ça, tu sais, il y a Lucian Freud, puis ses portraits très mélancoliques, et sa technique incroyable, mais surtout comme la mélancolie de ses œuvres, tu sais, c'est quelqu'un qui, tu sais, il s'est peint nu avec le temps qui ravage son corps au fur et à mesure, tu sais, de voir les autoportraits au fil du temps, je trouve ça intéressant de... C'est une vision qui est beaucoup moins glamour. Tu sais, on est plus dans la représentation telle quelle de l'humain qui vieillit. Il est moins présent dans ma pratique, mais c'est certainement quelqu'un dont j'ai regardé les autoportraits souvent. L'idée du regard aussi, du contact avec le spectateur, c'est toujours très intriguant, comme quelque chose d'un peu sombre dans ses autoportraits. Donc, ouais, je pense que c'est comme les deux artistes principales.
Vous venez d'écouter Sous la fibre, un podcast créé et réalisé par Claire-Marine Béat. Les musiques originales sont signées Juliette Béat et Yvan Vendray. Les musiques additionnelles sont toutes sous licence libre de droit. Les détails se trouvent dans la description de l'épisode. Un immense merci à Michael Lepage, Annie Bayarjon, Marie-Danielle Duval et Aja Palmer. Afin de m'aider à faire rayonner le podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, à en parler autour de vous, ainsi qu'à vous abonner à l'infolettre qui vous offre plus de contenu sur l'art visuel, la créativité et un accès aux coulisses du podcast à chaque mois dans votre boîte courriel. Un lien se trouve dans la description de l'épisode. Merci, à bientôt !